Alors, Saint-Michel et les anges. Voilà. Alors, on est dans notre monde, tout ça, c'est un peu bizarroïde. Même chez les chrétiens, souvent, ils disent, ouais, c'est un peu des mythes, tout ça, c'est des idées, voilà. Le monde angélique est beaucoup plus grand que le monde cosmique et terrestre. L'évêque Jean disait, c'est le rapport entre 9 et 1. Vous savez, 99 et 1, c'est à peu près la même chose. Mais c'est le monde cosmique que porte l'homme est tout petit. Le monde angélique est gigantesque. D'ailleurs, quand on parle des anges en liturgie, on dit des myriades de myriades. Vous savez, des myriades, c'est grand. C'est beaucoup plus que des milliards. Et que les incorporels sont omniprésents, mais seulement on ne les voit pas, par définition, puisqu'ils ne sont pas matériels, ce sont des incorporels. S'ils ont cette ressemblance avec Dieu, qu'ils sont esprits, mais pas de purs esprits. Dieu seul est un pur esprit. Mais ils sont esprits, ils ne sont pas matériels. Et la tradition nous apprend, notamment celui qu'on appelle Denis l'Aréopagite, même si on conteste qu'il fut un Denis, peu importe. Mais beaucoup de pères en ont parlé, Maxime le Confesseur, Jean Damascène, beaucoup de pères l'Église en ont parlé. La tradition nous apprend qu'ils sont répartis en 9 cercles angéliques. Pourquoi on dit des cercles? C'est parce que d'abord le cercle est symbole céleste, et c'est autour du trône de Dieu. Vous avez vu? Il y a une chose très étrange quand il Christ nous envoie à la prière, il dit « Notre Père qui est aux cieux ». Avant qu'on ne parle du Fils et du Saint-Esprit, on parle du monde angélique. Notre Père qui n'est pas seul, qui est entouré des 9 cercles angéliques. Voilà. C'est énorme le monde angélique. Et ces 9 cercles sont hiérarchisés. Voilà pourquoi on les appelle des armées. Michel, on appelle l'archistratège, c'est général en chef. On dit les armées angéliques. Seigneur Sabaoth, c'est-à-dire en hébreu Dieu des armées. C'est les armées angéliques. Ils sont des messagers de Dieu, serviteurs de Dieu, gardiens et garants du cosmos. L'évêque Jean disait, ils sont les lois vivantes du cosmos, en s'appuyant sur l'apparition des 4 chérubins, Ézéchiel. Ils sont les lois vivantes du cosmos. On ne peut rien faire sur le monde angélique. On parle des anges à chaque page de la Bible. Prenez pas première page, la dernière page. On parle tout le temps du monde angélique. Alors, c'est le monde angélique en général. Le premier cercle autour du trône de Dieu, c'est les séraphins. Je vais vous en parler. Et le 9e siècle, c'est les anges. Notre ange gardien est un ange. Voilà. Ceux qui sont les plus proches de nous, au plan terrestre. Alors, il y a un petit problème de terminologie. Quand on dit un archange, ça a deux sens. Ça a un sens général et précis. Le sens général, c'est un ange d'une hiérarchie élevée. Pour ça, on dit Michel Archange, mais il n'est pas archange, c'est séraphin. Puis, c'est le 8e cercle angélique, le cercle des archanges, voyez. Donc, c'est utilisé dans les deux sens, donc il faut faire attention. Michel, Gabriel, Raphaël, c'est des séraphins. On les appelle des archanges. Alors, je veux parler du monde archangélique, séraphique, avant de dire quel rapport il y a avec notre pays. La tradition spirituelle, les pères de l'Église, parce qu'il y a peu de choses précises dans l'Évangile sur ces choses-là, mais on a la tradition chrétienne qui ne vient de la bouche des apôtres, c'est-à-dire ce qu'ils ont entendu de la bouche du Christ, qui n'a pas été consigné dans l'Évangile. On a consigné dans l'Évangile ce qui était absolument capital. Voilà, ce n'était pas consigné dans l'Évangile. La tradition nous indique que on ne sait rien de leur création, sauf premier mot de la Genèse, dans le principe, les dieux, la divine Trinité, créa le ciel et la terre. Il créa le ciel, c'est le monde angélique. La terre, c'est le cosmos et l'homme. On ne sait rien de la création, on ne sait pas s'ils sont un engendrement. Grégoire de Nice se pose la question au 4e siècle, on n'en sait rien. Mais il y a certains pères qui le pensent. Hein. Mais il y a évidemment une nature angélique. Et des personnes. S'il n'y a pas des... Il ne pourrait pas y avoir de personnes s'il n'y a pas une nature angélique. Il y a quelque chose qu'ils partagent tous. Mais ce sont des personnes libres, comme volonté libre, la volonté angélique. Et les pères de l'Église pensent, estiment, en s'appuyant sur l'Écriture, que le second cercle angélique, c'est le cercle des chérubins, qu'on appelle chérubins à multiples yeux. Représente la plus haute connaissance que puisse avoir une créature. du monde créé par Dieu. C'est la plus haute connaissance possible. C'est la connaissance chérubique. Et Satanaël était un chérubin. Mais, d'une certaine façon, on pourrait dire qu'on n'est pas créé séraphin. Parce que si le second cercle angélique, c'est le cercle de la connaissance, le premier cercle angélique est celui de l'amour. Séraph, en hébreu, c'est le serpent brûlant. Serpent, symbole de la sagesse, symbole du Christ, brillant, symbole de Saint-Esprit. C'est des très ressemblants à Dieu. Ils sont contre le trône, tout près. Ils sont tellement près qu'ils se voient la face pour ne pas être brûlés par le feu divin. C'est ce que dit l'Écriture. C'est les séraphins en ses ailes. Ils se voilent la face pour ne pas être brûlés. Ils se cachent les pieds parce que Dieu est maître de leur démarche. Ils ne font pas leur propre démarche. Et deux servantes à voler parce qu'ils obéissent à Dieu. Ils obéissent aux ordres de Dieu. C'est des magnifiques représentations des séraphins en ses ailes à la veine, dans les mosaïques. On en a un partout, dans toutes les icônes. Les pères de l'Église nous pensent ceci. Que Satanaël, le chérubin, a eu la préscience de l'incarnation du Verbe, que le Fils de Dieu se ferait homme. Et il a dit non, jamais. Ça, tu ne peux pas devenir cette crotte de mic, tu ne peux pas devenir de la poussière, c'est de la boue. Jamais, tu es trop haut, tu es trop beau, impossible. Vous vous souvenez quand le Christ il annonce pour la première fois. Le Fils de l'homme va être jugé, condamné et tué. Saint-Pierre lui dit jamais. Et que lui répond le Christ ? Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Les pères s'appuient beaucoup là-dessus. Passe derrière moi, Satan. Ça, c'est ça notre, au fond, dire, c'est peut-être l'unique combat spirituel de tous les êtres humains et même de toutes les créatures. Être capable de mourir à ses propres pensées, à ses conceptions, à son intelligence, à soi-même, à sa connaissance. Pour aimer. Aimer, c'est mourir. C'est donner sa vie pour l'autre. Vous avez vu, Dieu donne sa vie pour nous. Mais il nous dit, fais comme l'autre. Mais nous pouvons dire que Michel, il a fait comme ça. Michel n'a pas compris l'incarnation du Verbe. Vous vous souvenez que quand on est à l'ascension, on utilise ce psaume extraordinaire, à l'ascension, le rameau. Vous savez, quand on toque à la porte, et les enfants qui représentent le monde angélique disent « Qui est-il, ce roi de gloire ?» Ils ne comprennent pas. Le monde angélique ne comprend pas l'ascension, qu'un homme puisse passer au-dessus d'eux. Impossible ! Parce que le Christ, il a sa nature humaine déifiée. Ils ne comprennent pas. Mais ils adorent. Mais ils acceptent. Et ils adorent. Saint Michel est le plus humble de tous les anges. Michael, en hébreu, veut dire qui est comme Dieu. Mais l'exégèse qu'on en fait ici en Occident, je le trouve bébête et moralisante. C'est qui ressemble à Dieu par l'humilité. Qui est devenu comme Dieu par l'humilité. On peut oser dire qu'on ne naît pas séraphin, on le devient. Et les sept séraphins qui se tiennent devant le trône de Dieu, vous avez l'image de l'autel. C'est les sept bougies que vous voyez sur l'autel. C'est ce qu'il dit dans l'Apocalypse. Les sept lumières qui se tiennent devant le trône de Dieu. Ça, c'est pour les anges en général. Les anges interviennent souvent dans l'histoire humaine, mais surtout Saint-Michel, parce qu'il est le premier des anges, il est le chef de l'armée céleste. Vous avez entendu dans le livre d'Apocalypse. Entre parenthèses, on ne lit jamais l'Apocalypse en Orient, parce que c'est un livre dont ils ont longtemps douté, comme en Occident, on avait douté de l'Épître aux Hébreux. Voilà. Donc on ne l'utilise jamais. Dans le livre d'Hébreux, il est constamment utilisé. La moitié des textes viennent de l'Apocalypse. C'est un livre extrêmement prisé dans l'Hébreux. Vous allez m'entendre toutes sortes d'éléments prêtés à l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la prophétie de la fin des temps. Vous avez vu clairement le rôle de Saint-Michel, qui, à la fin des temps, mènera le grand combat angélique contre Satan et ceux qui le suivent, la tierce du monde angélique. C'est un combat spirituel. Et il y aura ce combat. Là, actuellement, les démons font tout ce qu'ils veulent. Il faut bien le dire. Hein. Parfois, on dit, Seigneur, écoute, t'exagères. Jean lui dit, mais tu te rends compte, Seigneur? Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils détruisent, ils pillent, c'est tout mental. Mais il y aura un moment où le Seigneur dira, c'est suffisant. Il y aura un pendant angélique. Et quand le Christ fait la prophétie de la fin des temps, ça va juste avant d'être arrêté, juste avant sa passion, quand il dit qu'il y aura des grands bouleversements dans le ciel, les pères de l'Église disent que c'est des bouleversements cosmiques, mais aussi ça signifie la guerre dans le ciel, la guerre angélique, entre Saint-Michel et les anges obéissant à Dieu, et Satan et les anges qui n'obéissent pas à Dieu. C'est un combat terrible, un combat redoutable. Le grand dragon, Satan, il sera jeté dehors dans les temps de feu et de sang. Je ne me souviens plus de l'expression. Alors, Saint-Michel intervient souvent dans l'histoire humaine. Il est apparu de nombreuses fois, et en tout cas, sur la terre de France, il est apparu de nombreuses fois. Et si souvent les apparitions de Saint-Michel, il y en a beaucoup en Orient, elles sont liées à un combat. D'ailleurs, le nom même de Michel est lié à un combat. Soit il y a un combat à l'intérieur de la personne, soit que la personne ait un combat à livrer. C'est souvent lié à une lutte et à un combat. Alors que vous avez vu que Gabriel est très différent. Il vient annoncer à Marie, tu vas être enceinte du Fils de Dieu. C'est lui qui annonce à Marie, Christ est ressuscité. C'est pour ça qu'il dit, je le répète, réjouis-toi. C'est, je le répète, salut, parce que ton Fils est ressuscité. Ça, c'est la grande tradition chrétienne orthodoxe. Et Raphaël est tout à fait différent. Raphaël est le séraphin qui guérit et le séraphin qui protège l'amour humain, l'union charnelle des couples, qui est un don de Dieu. Michel, c'est l'ange du combat. Alors on a la plus célèbre en Occident, mais peut-être du monde entier, c'est l'apparition de Saint-Michel le 8 mai 492 au Mont Gargan. Monte Gargan, au sud de l'Italie, juste au nord des Pouilles, au nord de Bâle, où j'ai eu la chance d'aller en pèlerinage. Alors, je vous en dire deux mots. Début 8e siècle, au mont Tombes en France, il apparaît à Saint-Aubert d'Avranches, c'est devenu le mont Saint-Michel. Fête le 16 octobre. Et le 29 septembre, peut-être au Puy, je n'ai pas trouvé la trace. C'est le 29 septembre que Charlemagne avait décidé que Saint-Michel serait le patron de l'Empire des Gaules. Alors, le mot Gargan, on est à la fin du 5e siècle. Le monde est dans un état désastreux. L'Empire romain n'existe plus en Occident, il va survivre en Orient. Ceux qu'on appelle les barbares sont absolument partout omniprésents et on sort d'une guerre terrible en Italie entre un officier Scyre qui s'appelle Odoacre et Théodoric Lamal qui est un Ostrogoth. Les Ostrogoths vont être vainqueurs. C'est une période épouvantable. Le pape de Rome, Gélase Ier, c'est un Africain énergique, courageux et orthodoxe. Il y a un propriétaire d'un troupeau, il a perdu un taureau. Le taureau s'est échappé. On finit par retrouver le taureau qui s'est caché dans une grotte. C'est une zone karstique. Il y a des grottes énormes, gigantesques. Puis on se rend compte que le taureau, il est entré là-dedans. Il y a un archer qui tire, paf, pour faire gigoter le taureau, faire sortir. La flèche revient et blesse l'archer. On va trouver l'évêque du Dieu, c'est l'évêque de Sipponto. Tout ce monde est grec, hein, jusqu'au 11e, 12e siècle. On va trouver l'évêque de Sipponto. Alors il dit, on va jeûner et prier pendant 3 jours. Et ça, c'est une réaction vraiment chrétienne de l'Église antique. On va demander à Dieu ce que c'est. Tout le peuple prie et jeûne pendant 3 jours. Et à la fin, il reçoit une réponse. Michel lui dit, par la volonté de Dieu, ce lieu doit être consacré, il faut construire une église. On va construire une église dans la grotte. Moi, je l'ai vu. C'est une grotte gigantesque. Hein. Et vous verrez, il y a des portes en bronze qui sont antiques, qui sont absolument magnifiques, qui sont iconographiques. C'est un très très haut lieu spirituel. Voilà l'histoire de l'apparition de Saint-Michel au Mont Gargan. Mais c'est lié aussi un peu avec la France. Alors je vous ai dit tout à l'heure, il était le premier patron de la France au 8e siècle. Charlemagne l'a déclaré patron et protecteur de l'Empire des Gaules. C'est quand même beau, il a fait broder l'image de Saint-Michel sur son étendard. C'est quand même beau, ça date du 8e siècle. Après, la France était consacrée à la Mère de Dieu, mais c'est à partir de Louis XIII, au XVIIe siècle, et ça c'est beaucoup plus tardif. Et Sainte-Geneviève et Sainte-Jeanne d'Arc sont des patrons de ce monde de la France. Mais je reviens à Jeanne d'Arc, vous allez voir. C'est Saint-Michel qui a conduit Jeanne d'Arc au début du XVe siècle. Alors, on la voit ici, elle était avec Jean de Facetticon, Michel de Vigneau, il y a Sainte-Catherine d'Alexandrie, Sainte-Marguerite d'Anfergue, notre Marguerite. Marguerite qui est en icône ici, qui est la patronne du lieu. Et Sainte-Jeanne d'Arc avait reçu de Dieu la mission et l'ordre de sauver la France au plan politique. parce qu'elle risquait de disparaître, tout simplement parce que c'était une possession anglaise et qu'en tant que nation, la France risquait de disparaître complètement. Et le 8 mai 1429, Jeanne a sauvé Orléans, a délivré Orléans. C'était le début de la reconquête et après l'avènement de Charles VII. C'était Saint-Michel qui l'a conduit. Et Saint-Michel a dit à Jeanne d'Arc, je suis Michel, protecteur de la France. Quand même, c'est fort. On ne doit pas oublier ces choses-là. Alors je vous ai dit tout à l'heure que les archanges conduisaient les peuples. Il y a un archange de chaque peuple. Quand il y a eu malheur au Japon, je vous ai prié l'ange du Japon. En fait, c'était l'archange du peuple japonais. Je vais vous demander de prier. Il y a un archange de la France. Mais Michel est le patron. C'est deux choses différentes. Chaque peuple, chaque pays a un archange qui veille sur lui. Mais lui, il est le patron de la France. De même qu'il est le protecteur du peuple d'Israël. Saint-Michel, c'est dit dans la Bible. Et puis, je termine là-dessus. Nous célébrons aujourd'hui le rite des Gaules, Henri des Gaules restauré, que nous devons en grande partie à l'évêque Jean. En 1958, il y avait une belle icône sculptée de Saint-Michel. Elle a été sculptée par Léonie Douspensky, qui était un très grand iconographe, dans la cathédrale Saint-Irénée, qui à l'époque n'était pas une cathédrale. Il n'y avait pas d'évêque. Et le 13 mai 1958, l'icône a commencé à sointer une huile miraculeuse. Ça a duré un an. Jusqu'à mai 1959. Eh bien, c'est ce miracle qui a décidé Saint Jean de Shanghai et San Francisco à sacrer le Père Grand évêque. Voilà. Il a dit, c'est céleste, c'est un miracle. Christ est ressuscité. Oui. Christ est ressuscité.